Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 21 décembre 93.
Le secret implique à la fois l'intention vers la fin, puisqu'il est présence affective de l'ami, et à la fois le choix, puisqu'il implique la réciprocité. Ne peut-on pas dire que le secret est une certaine forme de telle amitié, et que le secret est ce par quoi la fin, c'est-à-dire les amis, l'ami, dans leur réciprocité, mais la fin spécifique selon la forme. Oui, on a été resté un peu là au secret, c'est-à-dire la connaissance affective. La connaissance affective se noue autour du secret. C'est sûr. Le secret, union affective, pas effective. Le propre de la connaissance affective, c'est de commencer par cette union affective, en vue de l'union affective, et de l'union affective remonter à l'union affective. Bien, l'aller et le retour. Qu'est-ce qui est plus grand dans l'amitié? C'est l'union affective. Et pourtant, l'union affective a besoin de l'union affective. Et si on reste dans l'union affective, c'est le désespoir. Tous les désespoirs viennent de là. Ce que de fait, l'union affective n'est plus assez forte. Et on croit avoir le paradis terrestre sur la terre. Le paradis terrestre, hein, ça n'a pas duré. Et il n'est plus sur la terre. Tandis que l'union affective demeure. Vous voyez, il y a le même danger du positivisme et un positivisme affectif qui considère ce qu'il y a de plus grand dans le monde d'amitié, c'est l'union affective, l'union des corps. On en est là aujourd'hui. C'est ce qu'il y a de plus grand. Et non. L'union des corps est un signe. Ce n'est pas l'amour. C'est une manifestation. Ce n'est pas l'amour. L'amour est toujours union affective. Ça, c'est capital. Hein? Et quand on doit éduquer des jeunes au mariage ou à la vie religieuse, parce que c'est analogue, l'union affective, dans le mariage, on comprend très bien, c'est les fiançailles. Aujourd'hui, on ne peut pas rester dans le fiançailles et puis tout de suite une union affective. Et on croit que c'est nécessaire. Alors que l'Église, dans sa sagesse, éducatrice dans l'ordre de l'amour, veut des fiançailles pour que l'union affective soit vécue et grandisse. Et que l'union effective soit légère. Et quand l'union effective devient le lieu de la jouissance, alors à ce moment-là, l'union effective peut devenir rivale de l'union effective, de l'union affective. Et c'est très vite le désespoir. C'est très vite le divorce. Le divorce, tous les divorces proviennent de là. Qu'on a confondu, ou qu'on a regardé que la finalité, c'était l'union affective. Or, l'union affective ne sera jamais parfaite. dans le ciel. Il faut des corps glorieux pour ça. Et divinement glorieux. Il faut des corps glorieux qui sont des transparents par rapport à l'amour. Des ostensoirs de l'amour. Alors ça, c'est les corps glorieux. Les vieux ostensoirs, les modernes, il n'y a plus rien. Alors, vous voyez, c'est... Parce qu'on n'a pas compris ce que c'était que l'ostensoir. Alors, c'est un problème extrêmement important, vous voyez, qu'il faut regarder au point de vue critique, non pas du tout que la critique me donne le secret, mais non, non. C'est dans la connaissance affective qu'on voit le mieux. Combien la critique est secondaire, et secondaire à tout point de vue. La critique va moins loin que la connaissance métaphysique. C'est une bêtise de dire que la métaphysique repose sur la critique, vous comprenez. Puisque la critique, c'est le conditionnement humain. Donc c'est toujours le devenir. Et la métaphysique, c'est l'être. Alors si vous mettez la critique avant la métaphysique, vous mettez le devenir avant l'être. Et vous relativisez l'être au devenir. Au point de vue connaissance affective, la critique, c'est quoi? C'est de saisir comment l'intelligence est au service de l'amour. C'est ça que fait la critique. Et mon conditionnement humain d'aimer, c'est que la connaissance est au service de l'amour. Et donc, ce n'est pas la connaissance qui spécifie l'amour. C'est le bien qui spécifie l'amour. Et non pas la connaissance. Ce n'est pas le vécu qui spécifie l'amour. Dès que vous ramenez l'amour au vécu, ce n'est plus l'amour. Et donc la critique est là pour sauvegarder le primat de l'union affective, comme la critique est là pour sauvegarder le primat de la connaissance métaphysique. Une bonne critique est au service de la métaphysique, pour montrer que tout repose sur la métaphysique. Et une bonne critique est faite pour montrer que la connaissance est au service de l'amour, dans la connaissance affective, et non pas l'amour au service de la connaissance. Alors, on va essayer de comprendre ce qui nous, je dis bien nous, ce qui nous l'amour, et l'amour d'amitié, puisque l'amour spirituel n'est parfait que dans l'amour d'amitié. Non, l'amour n'est pas parfait en dehors de l'amour d'amitié. C'est un amour désir. Il peut être très grand, il peut être plus grand, mais il n'est pas parfait. Donc au plan critique, ce qui m'intéresse, c'est saisir ce qui est parfait. Puisque c'est là où je saisis le nœud. Je regarderai après le désir. Mais je regarde d'abord parce que c'est ça qui me fait comprendre ce que c'est que la connaissance affective, le secret. Le secret, je peux établir tout de suite cette analogie, le secret est à la connaissance affective ce que le concept est à la connaissance tout court, spéculative. Ce que l'idéa est à la connaissance artistique. Alors, une fois qu'on établir ces analogies et bien comprendre ce que ça veut dire quand je dis ça. Après, on essaiera de comprendre la structure du secret. C'est la question posée. Dans la connaissance spéculative, scientifique, la connaissance habituelle, il y a toujours un concept. vu précédemment ce que c'était que le concept. Première partie de la critique. Le concept, je le découvre quand je réfléchis sur ma connaissance. Le concept, c'est ce par quoi j'atteins la réalité. Le concept est un fruit intérieur. Je ne m'arrête pas au concept, je m'arrête à la réalité connue. Ce serait dans l'appréhension où le concept commence à naître. Le premier concept est le fruit d'une appréhension, c'est-à-dire d'une assimilation. Et il est au terme de l'assimilation. D'une certaine manière, l'assimilation s'achève dans le concept. Mais le concept, en tant qu'il me met un avec la réalité connue, avec la réalité atteinte par la connaissance intellectuelle. Donc je peux dire que l'appréhension se termine à l'acuité, mais l'acuité atteinte est connue par le concept. Est une forme intentionnelle. Ce par quoi j'atteins et je touche la réalité que j'appréhende. Donc, je ne peux pas dire que l'appréhension se termine au concept. Je peux dire que l'appréhension se termine à la réalité assimilée par le concept. C'est pas tout à fait la même chose, vous voyez. Mais c'est vrai que c'est très facile de dire que l'appréhension se termine au concept. Mais c'est pas le concept qui m'intéresse, c'est la réalité connue. Et le concept est uniquement le moyen par lequel j'atteins cette réalité. Parce que je ne peux m'assimiler l'intelligibilité de la réalité que par le concept. Cette forme intentionnelle. Le concept est une forme intentionnelle. Ceci présupposé connu. Tout à fait le début de la critique. À distinguer appréhension du jugement. Le concept va se retrouver dans le jugement, où il y aura un concept complexe qu'on appellera la proposition, l'énonciation. C'est l'énonciation. L'énonciation, elle, je la possède au-dedans de moi-même. Et je peux savoir si cette énonciation est conforme à la réalité connue. C'est ça qui est très délicat. La définition de la vérité. Thomas d'Aquin, adéquatio intellectus ad rem. Adéquatio intellectus ad rem. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce que je conçois de la réalité est conforme à la réalité connue. Quand vous pensez à une réalité, chat, puisqu'il est très métaphysique, vous dites chat, et tout de suite vous énoncez quelque chose, un animal à moustache. Et vous voyez, si ce que vous énoncez est conforme à la réalité. Parce qu'il est un, il peut y avoir d'autres animaux à moustache qui ne sont pas des chats. Donc vous voyez, ce qui veut dire que cette énonciation qui définit le chat animal à moustache n'est pas une définition propre du chat. Vous avez des lions à moustache. C'est plus digne. Vous avez des hommes à moustache. Encore plus digne. Oui, donc c'est une propriété du vivant. Pas plus. Pour bien préciser ce que c'est que le chat comme animal à moustache, il faudra préciser qu'est-ce qui spécifie le chat. Votre énonciation, le chat est un animal, comme ça, est vrai si c'est conforme à la réalité. Alors vous voyez, dans le jugement, vous avez une énonciation que vous pouvez regarder pour elle-même et vous atteignez la réalité. Votre connaissance ne se termine pas à l'énonciation, elle se termine à la réalité. Autrement, vous ne pourriez jamais comprendre si c'est vrai ou pas. Il faut réfléchir tout simplement à cela. Une conclusion scientifique, une loi scientifique est vraie si elle est conforme à l'expérimentation que vous pouvez faire. Donc, l'énonciation, je la possède au-dedans de moi-même. Et d'une certaine manière, je peux la regarder pour elle-même. Et je peux voir à ce moment-là si elle est conforme à la réalité que j'atteins. Et nous sommes en présence de la vérité. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous définissez à la suite de Thomas d'Aquin, la vérité, c'est la conformité de l'intelligence à la réalité. Il faut bien comprendre l'intelligence, qu'est-ce que c'est ? C'est l'intelligence qui juge, c'est le jugement, la seconde opération d'intelligence. Et cette opération d'intelligence qui forme au-dedans d'elle-même l'énonciation. En réalité, on devrait dire la vérité, c'est l'énonciation que j'énonce à l'égard de telle réalité et qui est conforme à cette réalité telle qu'elle existe. Donc, en réalité, c'est pas l'intelligence. C'est le fruit de l'intelligence qui est l'énonciation conforme et qui est de l'ordre de l'intentionnalité et que vous exprimez par la parole, l'énonciation. Donc il y a un concept de l'appréhension et un concept du jugement. Bien d'accord avec ça, j'espère. Et vous distinguez par là ces deux opérations, appréhension, jugement. Et vous voyez que l'appréhension est un élément de ma vie intellectuelle. Et que le jugement, c'est l'opération parfaite, puisqu'elle est capable de vérité. Et que la vérité qualifie l'opération intellectuelle comme parfaite. Seule l'opération vraie est parfaite. La connaissance affective, ce n'est plus l'intelligence à l'état pur. C'est l'intelligence qui se sert de l'amour pour atteindre la personne humaine ou pour atteindre une réalité que j'aime. Parce que vous pouvez avoir une connaissance affective du petit chat. C'est vrai, il y a des personnes qui ont une connaissance affective du petit chat. Parce qu'elles n'ont jamais aimé une personne humaine, elles aiment le chat. Un substitut. Et je me souviens, j'étais dans les trains, on rencontre beaucoup de gens. J'avais rencontré un petit soldat suisse. On avait bavardé ensemble. J'ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a dit, je fais les études de vétérinaire. Alors, il dit, tiens, pourquoi ? hommes sont tellement peu reconnaissants et les animaux le sont tellement. Je faisais partie de la Ligue protectrice des animaux. Il était vétérinaire pour remplir son rôle de protection des animaux. On voit très bien qu'on peut très bien reporter l'amour normal vis-à-vis des personnes humaines, vis-à-vis des animaux, pour tel ou tel motif. Je dis, tu aimes ton cheval tant que tu ne reçois pas de lui le jour où il a été piqué par une guêpe à un coup de pied. C'est comme ça, il faut regarder les choses humaines comme elles sont. Connaissance affective, c'est une connaissance qui s'engendre à l'intérieur de l'amour. Et c'est une connaissance qui, grâce à l'amour, peut devenir beaucoup plus intérieure vis-à-vis de la personne. Quand j'aime quelqu'un, je peux regarder cette personne de l'intérieur. C'est pour ça qu'une connaissance affective est toujours une connaissance intérieure de la personne humaine. Parce que je l'aime, je suis tout proche d'elle. Et je peux la regarder de l'intérieur comme si j'étais un avec elle. En réalité, je ne suis pas un avec elle. Je suis intentionnellement, par l'amour, uni. Surtout quand cet amour est un amour d'amitié. Où l'ami est un autre moi-même. Et alors je peux le connaître de l'intérieur. C'est le propre de la connaissance affective dans l'ordre de l'amitié. Ça peut aller très loin, ça, vous voyez. C'est pas une fusion. C'est une unité affective qui respecte totalement l'altérité de l'autre. Dans la fusion, on ne respecte pas totalement l'altérité de l'autre. C'est pour ça que la fusion est imaginative. Jamais réel. Ce qui est réel, c'est ce jugement affectif dans l'ordre de l'amitié où je juge que l'ami est un autre moi-même, un autre moi-même. Et j'insiste sur autre. Il est autre que moi et il est cependant moi. C'est mon prolongement. Je me prolonge dans l'ami. Et grâce à l'ami, je peux aller beaucoup plus loin. Donc, la connaissance affective naît à l'intérieur de l'amour. Pour aimer, il faut connaître. Et grâce à l'amour, ma connaissance va devenir une connaissance affective. Qui va aller beaucoup plus loin. Dans la connaissance affective, je connais l'autre de l'intérieur. Et donc, je le connais d'une manière telle que tout ce que je connais de cette personne, c'est un secret. Et je n'ai pas le droit de le divulguer. Quand j'aime quelqu'un, je suis relatif à cette personne et toute la connaissance que j'ai de cette personne est relative à elle. Et je n'ai pas le droit de divulguer cet amour. Il est trop personnel. Il est trop intime. Et c'est pour ça que cette connaissance affective est un secret. Ce secret va-t-il être du côté de l'appréhension ? Ah, ça devient très délicat. Non. L'appréhension n'est jamais affective. Elle est quantitative. Elle n'est jamais affective. C'est le jugement qui est affectif. De sorte que le secret est toujours à l'égard d'une personne. Vous n'avez pas de secret à l'égard d'un cheval, si ce n'est que c'est un bon cheval. Vous n'avez pas de secret. Vous n'avez pas de secret à l'égard d'un outil. Même si vous dites c'est mon outil, ce qui m'en a fait baver, et ce qui m'a donné de joie. Un outil. Un outil qui peut être l'automobile. Qui peut être une moto, qui peut être un petit avion, assez facilement. Parce qu'il est dans la série. Et je retrouverai son frère ou sa sœur assez facilement. Donc, ça ne me désole pas de le perdre ou qu'un autre l'a volé. Tandis que s'il a volé mon auto, que j'ai choisi avec beaucoup d'attention, j'ai mis tous mes bénéfices, tout que j'avais pour ça, alors ça me tient à cœur. Il y a des gens qui pleurent parce que leur auto a été volée. Parce qu'ils aiment l'auto plus que tout. L'auto de course. T'as déjà entendu quelqu'un qui avait fait des courses avec telle voiture, il en parle comme de sa compagne. Tellement il l'aime. Il a une connaissance affective de l'outil. À partir d'un jugement, on connaît cette réalité de l'intérieur et on l'aime, on est attaché. On est lié. Ça devient, vous voyez, un secret. Le secret, c'est il y a une réciprocité. Alors évidemment, l'outil, même l'auto, et même l'auto de course, elle n'est pas réciproque. L'auto de course ne gémit pas particulièrement quand son propriétaire, qui a couru avec elle, la reprend. On ne peut pas, comme pour un animal, la caresser, dire ma bonne petite bête, aujourd'hui il faut bien marcher. On peut le faire, mais c'est métaphorique. Et donc, c'est un peu à côté. Quand il s'agit d'un ami, c'est réciproque, une personne humaine. C'est pour ça que le secret n'est parfaitement secret qu'à l'égard d'une personne qui est un ami. Alors, c'est une connaissance qui se fait à l'intérieur de l'amour et toujours dans un jugement. Il n'y a pas de connaissance affective au niveau appréhension. La connaissance affective n'existe qu'au niveau du jugement. C'est très important à bien souligner ça, parce que ça montre que la connaissance affective est toujours existentielle, toujours liée à la réalité existante. Je n'ai pas de connaissance affective à l'égard de la logique. C'est pour ça que les purs logiciens, au bout d'un certain temps, leur affectivité tend à disparaître. C'est l'objectivité parfaite. La connaissance affective, l'objectivité est dans la subjectivité de l'amour. C'est une autre objectivité, tout à fait différente, mais c'est une objectivité, puisque c'est l'ami. C'est l'ami que j'aime. Ou c'est telle voiture que j'aime. Il y a une objectivité. Et cette objectivité se fait à l'intérieur d'une subjectivité qui est l'amour. Ce secret, connaissance affective, me lie à la personne. C'est la personne que je porte en moi, que j'aime et que je connais. Et alors, en tant que je la porte, elle est ma vie. Je vis ce secret. Secret peut devenir quelquefois monstrueux. Il prend tout. Il n'y a pas de limite. Parce que l'imaginaire est très facilement lié à l'affectivité. Surtout à l'affectivité sensible. Et alors, à ce moment-là, le secret peut très bien prendre toute ma vie. Et je vis dans ce secret et pour ce secret. Et ma vie, en dehors de ce secret, s'étiole. Elle disparaît. Je ne vis que dans ce secret. Mais ça peut devenir maladif. On peut en mourir. Le secret. sacré, à ce moment-là, prend tout. Et c'est d'autant plus fort quand, de fait, la personne que j'ai aimée est loin. L'Atlantique nous sépare, ou le Pacifique, ou est mort. Parce qu'il n'y a plus la rectification de la présence. Et le propre de la connaissance affective liée à l'imaginaire peut tout prendre. Alors à ce moment-là, vous voyez, le secret étouffe le reste. Et je n'arrive plus à vivre du reste. Plus possibilité de travail. Je suis pris par l'affectivité. Et l'affectivité me ronge. Imaginativement. Et là, on reconnaît bien que c'est imaginatif. Parce que ça ne respecte pas la nature. C'est propre de l'imaginaire. Alors, il faut bien distinguer. Il faut bien distinguer le vrai secret qui existe et le secret monstrueux qui étouffe. Un vrai secret est source de vie et source de liberté. Le faux secret purement imaginatif, m'étouffe, il prend tout. La psychanalyse est à la recherche des faux secrets. Mais quelquefois, elle ne respecte pas les vrais. Elle considère que tout secret lie. C'est vrai, tout secret nous est lié. C'est un nœud. Je suis lié avec une personne, mais ça c'est bon. Si étant lié avec cette personne, nous avons la même finalité. Si la finalité est la personne elle-même, c'est très dangereux. Parce que je m'enferme dedans. Et je me roule dedans. Je fais tout à l'intérieur de ce secret. Ce secret m'absorbe complètement. Tandis qu'un vrai secret coopère avec un autre en vue de la finalité. C'est-à-dire en vue d'un bien qui est le même avec l'ami pour l'atteindre. Le secret est de l'union affective, intentionnelle et non réelle. Par l'imagination, il peut grossir et tout prendre intentionnellement. C'est ça que la critique voit tout de suite. Et là, cette critique est bonne. Alors c'est là où il faudrait se demander si dans Freud, parce que Freud a très fort le sens du secret, mais d'un secret qui est toujours le même, qui est d'ordre psychanalytique, et qui se ramène toujours à un complexe, et radicalement le complexe de type. Alors c'est là où une univocité terrible, comme si ma vie végétative déterminait ma vie spirituelle. Que de fait, la vie végétative détermine la vie d'une quantité de personnes. Oui. Surtout des fous. Surtout des hommes malades, fatigués. La vie végétative prend un très grande importance. Le repas du matin, le repas de midi, le repas du soir, le repas du matin terminé, c'est l'attente de celui de midi, et celui terminé du midi est l'attente de celui du soir, et celui du soir est l'attente du petit matin. Alors, on on est, vous voyez, de mon éducation. L'alcoolique, c'est ça. Prenez le complexe de l'alcoolique. C'est la vie végétative qui est noyée dans le vin, ou dans l'alcool, ou dans la bière. Et alors, c'est plus lourd. Mais et la vie humaine se ramène à ça. C'est juste, ça existe, mais c'est monstrueux. Et donc ce n'est plus l'homme, c'est un monstre. Et quand on le prend du côté sexuel, c'est la même chose. Alors on dit le nœud, dernier concept, le complexe d'Œdipe. Alors on ramène tout à la vie végétative. Or, toute notre vie humaine consiste à dépasser notre vie végétative pour qu'elle ne soit que le conditionnement. C'est vrai, ventre affamé n'a pas d'oreille. Hein ? Alors, quand je dis ventre affamé n'a pas d'oreille, je veux dire que, à ce moment-là, l'affamé détermine toute sa vie. Mais ventre affamé n'a pas d'oreille, ça existe peut-être quand on est très petit, très jeune. L'enfant qui est sevré de son biberon crie, et ne fait que crier, tant qu'il n'a pas le biberon. L'homme adulte, il est sevré d'un repas. Il le reprend avec les anges. C'est délicieux de prendre un repas avec les anges. C'est le meilleur des repas. Et puis c'est tout. Alors, c'est évident, ça se répète. Au bout d'un certain temps, c'est le désert, pas commode. Alors, il y a des limites. Ça, c'est sûr, il y a des limites. On le sait. Alors, si on est libre, on dépasse ce conditionnement comme on peut, chacun d'entre nous. On doit savoir comment on peut dépasser le conditionnement. Notre vie végétative nous conditionne, mais ne nous détermine pas. Elle ne nous finalise pas. On est finalisé par l'ami. Alors, très bien, on est très heureux de prendre un repas avec l'ami, mais quand l'amitié consiste à dire « c'est l'ami d'un tel parce que grâce à lui, je mange bien », à ce moment-là, l'amitié devient utilitaire et n'est plus l'amitié. Et donc, le conditionnement de la mendication et du repas finalise. Bon, vous savez, c'est un enchevêtrement constant du conditionnement et de la finalité. Et la lucidité consiste justement à comprendre. Il n'y a pas de secret dans le conditionnement. Ce sont des faux secrets. Tous les conditionnements font en nous de faux secrets. Et ces faux secrets deviennent monstrueux par l'imagination. Et plus ils sont anciens, et plus on n'a pas distingué le conditionnement de la finalité, plus ces faux secrets s'emparent de nous. Alors il faut les dégonfler. Psychanalyse, c'est le dégonflement des faux secrets. Il ne faut pas être trop près, parce que quand vous dégonflez un gros pneu, ça jaillit. Mais il n'y a pas que la psychanalyse, on devrait être suffisamment lucide pour découvrir nous-mêmes, à partir de la finalité, notre conditionnement, et découvrir les vrais secrets des faux secrets. Ça joue un rôle très très grand. C'est ça qui est intéressant dans la psychanalyse. Ça montre l'importance de faux secrets. Et qu'il y a des vies qui sont complètement détruites et annihilées à cause des faux secrets. Un gosse qui a fait une bêtise, il n'ose pas le dire. Il n'ose pas le dire à sa mère. Il n'ose pas le dire aux petits camarades. Il n'ose pas le dire au curé. Alors ça monte. Alors que c'est une bêtise, c'est même pas une faute, c'est une erreur. Et les erreurs engendrent de faux secrets. Et ces faux secrets encombrent à tel point qu'on ne peut plus poser un acte libre. C'est un secret du conditionnement, pas de la finalité. Vous voyez, je crois que ça, au point de vue critique, aujourd'hui, parce que la critique doit regarder Freud, l'affectivité chez Freud, c'est quelque chose. Et je dois pouvoir critiquer Freud à partir du secret. Je dois critiquer Sartre aussi, qui parle du secret. Sartre a des passages intéressants sur le secret. Il parle de ceux qui étaient dans le maquis pendant la guerre. C'est dans son théâtre qu'il fait ça. Et il montre que lorsqu'on était pris et qu'on avait des secrets, qu'on appartenait à toute une série de gens qui étaient précipités dans l'armée ennemie, liés entre eux. Dès qu'on livrait le secret, dit Sartre, on n'avait plus aucune force. Il dit, ma force est dans le secret. C'est une parole digne d'un père de l'Église. Mais d'un vrai secret. Si ce n'est pas un vrai secret, alors ça m'absorbe, ça me prend complètement. Et ça peut m'enlever complètement la liberté. Alors il faut faire ce discernement. Le vrai secret, c'est toujours entre deux personnes, à l'égard d'un bien communiqué, en vue d'aimer plus, donc en vue du dépassement. Le faux secret nous maintient dans l'immanence. Le vrai secret est toujours en vue d'une finalité qui dépasse les amis et qui les unit. Donc là, vous voyez, il faut faire une recherche. C'est un terrain très intéressant. Vous pouvez avoir un secteur de recherche, le secret. Et à côté du secret, le silence. Tous les psychologues reconnaissent que le secret engendre le silence. Alors, quand c'est un faux secret, c'est terrible. Je ne peux plus parler à personne. Quand c'est un vrai secret, il est limité. Il est en vue d'une fin. Et je peux parler de cette fin à tous ceux que j'aime. Tandis que si le secret devient la fin, je ne peux plus parler. Je suis changé en statut de sel.